Merci d'écouter RFI, les 8h30 à Paris, une heure de moins en temps universel. L'heure du journal présenté par Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Kinshasa en a pourtant fait une ligne rouge. Le médiateur angolais annonce que des discussions directes entre les autorités congolaises et les rebelles du M23 sont en train d'être préparées. La présidence congolaise dit prendre note. Explication avec notre correspondante à Kinshasa dans un instant. Dans ce journal également, l'opposant mozambicain Venancio Mondlane placé sous contrôle judiciaire alors qu'il a porté plainte contre le président mozambicain pour incitation à la violence. On parlera aussi de la visite sur l'île Maurice du premier ministre indien Port Louis et New Delhi qui renforcent leur partenariat. Et reportage à Libreville aux Assises nationales de l'emploi alors que plus d'un tiers des Gabonais sont aujourd'hui au chômage. Verra-t-on dans les prochains jours des négociations directes entre Kinshasa et le M23, ce groupe rebelle soutenu par le Rwanda, qui occupe aujourd'hui une bonne partie des provinces des Nord et Sud Kivu, notamment leur capitale, Goma et Bukavu. Des discussions directes, jusqu'alors toujours refusées par Kinshasa. C'est le médiateur angolais qui les annonce après un entretien lundi entre les présidents des deux pays. La présidence congolaise, elle, reste prudente. À Kinshasa, Paulina Zidi.
C'est en tête-à-tête que les présidents Tshisekedi et Lorenzo se sont entretenus. Pas de déclaration à la sortie, mais cette annonce choque de la présidence angolaise sur les réseaux sociaux qui explique qu'elle va, je cite, « établir des contacts avec le M23 afin que les délégations de la RDC et du M23 mènent à des négociations directes à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive dans ce pays frère ». Du côté de Kinshasa, on assure prendre acte et attendre de voir la mise en œuvre de cette démarche angolaise, précise Tina Salama, la porte-parole de la présidence, qui rappelle qu'un cadre existe dans le processus de discussion dit de Nairobi. Depuis le début du conflit, la RDC a fait de ces discussions directes une ligne rouge. Le président Tshisekedi l'a rappelé plusieurs fois, estimant que toute négociation devait se faire avec le Rwanda. Le maître du M23 a encore affirmé le chef de l'État congolais fin février. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
Sachez aussi qu'hier à Bruxelles, le chef de la diplomatie rwandaise a été reçu notamment par son homologue de l'Union européenne. Alors que l'UE planche en ce moment sur des sanctions individuelles visant des responsables rwandais, Olivier Ndungiré minimise le rôle de son pays dans l'Est congolais. Dans le même temps, à Kinshasa, le secrétaire général adjoint du PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, dénonce des l'acharnement après que lundi, plusieurs cadres du parti ont été entendus pendant plusieurs heures à l'auditorat militaire, les autorités les soupçonnant de collusion avec les rebelles du M23. Ce qu'ils ont démenti. Écoutez donc la réaction de Ferdinand Kambere, le secrétaire général adjoint du PPRD.
C'était un acharnement parce que nous avons compris qu'il y avait certainement des instructions qu'ils recevaient, mais au moins, comme c'est des magistrats de carrière, ils sont restés professionnels pour certes peut-être poser une ou des questions dictées d'ailleurs, mais ils sont restés professionnels pour certainement faire un rapport qui soit objectif par rapport à l'interrogatoire. Je crois que c'est ça qui nous a régaillardis. Ils écoutaient toute notre défense. Et c'est ça qui était bon. Et ce soir-là, quand nous sortions déjà de l'auditorat, je viens d'apprendre que même le secrétaire général de l'Assemblée était là, ainsi que d'autres partis. Ils étaient là en solidarité avec nous. C'est un acte peut-être que le pouvoir n'attendait pas.
L'opposant congolais Ferdinand Kambere, secrétaire général adjoint du parti de l'ancien président Joseph Kabila. Des unités des forces spéciales ougandaises sont-elles déployées en ce moment au Soudan du Sud? C'est ce qu'affirme à la fois le chef de l'armée ougandaise et le porte-parole de cette même armée. Ce dernier assure même que ses troupes ont pour mission de protéger le gouvernement du président Salva Kiir. Alors qu'hier, le ministre de l'information du Soudan du Sud a démenti et qu'on se rappelle qu'en 2013 et en 2016 déjà, l'Ouganda avait déployé des troupes en soutien de Salva Kiir. Plus d'explications à lire sur RFI.fr, onglet Afrique, un article de Christina Okello. Il assure que ça n'affectera pas ses activités politiques au Mozambique. Le principal opposant, Venancio Mondlane, voit ses déplacements restreints par la justice, pas plus de 5 jours hors de sa résidence, et il a l'obligation d'en avertir les autorités. Décision de la justice mozambicaine, alors que le candidat malheureux de la dernière élection présidentielle voit son nom désormais apparaître dans 8 affaires judiciaires liées à la contestation des élections. Et hier, alors qu'il était convoqué au tribunal, il a lui-même porté plainte contre le président Daniel Chapo pour incitation à la violence, nous explique Gaël Lalex.
C'est un discours prononcé par Daniel Chapo le 24 février dans le Cabo Delgado qui fait l'objet de la plainte de Venancio Mondlane. Le président mozambicain avait alors comparé la répression de la contestation post-électorale à la lutte contre le terrorisme dans cette région du nord du pays. Comme les jeunes qui versent leur sang pour défendre l'intégrité territoriale du pays, nous verserons le sang pour défendre la patrie contre les manifestations, avait déclaré Daniel Chapo. Un discours que Venancio Mondlane qualifie de guerrier et qui empêche tout dialogue constructif, peut-on lire dans la plainte. En outre, l'opposant affirme avoir été l'objet d'un attentat le 5 mars lors d'une manifestation. Selon la plateforme de la société civile Décide, son véhicule a en effet essuyé 6 tirs à balles réelles lors de la répression de cette marche. Venancio Mondlane a été lui-même entendu par le procureur général hier. Il fait l'objet de plusieurs plaintes allant de la destruction de biens publics à la subversion ou encore aux troubles à l'ordre public. Devant le bureau du procureur, un rassemblement de ses militants a été violemment dispersé par la police à renfort de gaz lacrymogène. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Dans l'actualité des pays africains, ce matin également le Burundi et le procès en appel de la journaliste Sandra Muhoza qui est reporté sine die. Pas d'audience hier et pas de nouvelle date prévue. En première instance, elle avait été condamnée pour atteinte à l'intégrité du territoire national suite à des propos tenus dans une conversation privée sur WhatsApp. Et d'après ses proches, c'est faute de carburant pour l'amener au tribunal que l'audience programmée hier n'a pas eu lieu. Des arrestations au Cameroun, 20 de personnes interpellées avant-hier dans la région de l'extrême nord, des personnes soupçonnées d'avoir participé directement à l'assassinat de chercheurs Mounsi Frédéric et Bello Bienvenu et leur guide au début du mois, donc dans l'extrême nord du Cameroun. Questions militaires et économiques, recherche scientifique aussi au programme aujourd'hui sur l'île Maurice, 2e et dernier jour de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi, sa 2e en tant que chef du gouvernement à Port-Louis, Abdoulaye Rally.
Indépendamment des changements politique, l'Inde a toujours maintenu des liens étroits avec Maurice, parce que l'île est bien plus qu'un partenaire pour New Delhi. C'est une mini-India, selon les propres mots de Narendra Modi. L'île constitue en effet une pièce essentielle dans la stratégie régionale indienne. Pour cette visite, le Premier ministre indien vient notamment consolider l'accord sur Agalega, une île lointaine de la République mauricienne où l'Inde a installé un poste d'observation militaire. Ce partenariat, Port-Louis-New Delhi, permet à l'Inde d'étendre sa surveillance maritime dans cette zone stratégique du sud-ouest de l'océan Indien. Il s'inscrit dans le cadre de son projet SAGAR, ce programme de sécurité maritime régionale qui a pour objectif principal de contrer l'influence de la Chine dans l'océan Indien. Dans cette optique géopolitique, l'Inde s'aligne avec les États-Unis. Cette alliance s'est d'ailleurs manifestée lors des négociations avec Londres et Washington pour la rétrocession des Chagos à Maurice, processus auquel participe New Delhi. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Et quelle est la qualité de l'air que vous respirez si vous êtes dans une ville au Tchad ou en République démocratique du Congo? Il y a de fortes chances que la réponse soit considérée comme mauvaise. D'après une étude publiée par une entreprise suisse de capteurs de qualité de l'air, dans les 138 pays étudiés l'an dernier, seulement 1 ville sur 6 en moyenne avait un air qui respectait les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Mieux que l'année précédente, mais l'air pur reste toujours une denrée rare. Pauline Glaise.
Seulement 7 pays ont enregistré en moyenne une concentration en particules fines inférieure à la limite recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, l'Estonie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande notamment. Au contraire, le Tchad est considéré comme le pays avec la plus forte concentration en particules. Les mesures frôlent les 92 microgrammes par mètre cube en moyenne, très loin de la limite de 5 microgrammes recommandée. Principale cause, la dépression désertique du Baudelé qui charrie de la poussière, à quoi s'ajoutent entre autres les émissions des véhicules ou de la combustion de bois de chauffe. Suivent au classement le Bangladesh, le Pakistan, la République démocratique du Congo et l'Inde. L'Inde, dont 6 villes figurent dans le top 10 des villes les plus polluées au monde, à cause du trafic routier, des brûlis agricoles ou des poussières de construction par exemple. Un classement loin d'être anecdotique, la pollution de l'air était en 2021 le deuxième facteur de risque de décès dans le monde. En Inde, selon l'Université de Chicago, la mauvaise qualité de l'air réduirait l'espérance de vie de 5 ans.
Et puis c'est au Gabon que l'on termine ce journal. Reportage dans les allées des Assises Nationales de l'Emploi, dans un pays où le chômage touche plus d'un tiers des habitants, et en particulier les jeunes gabonais. Dans ce salon organisé par les autorités de Libreville, des grandes entreprises privées et le Bureau international du travail, certains espèrent bien trouver un emploi sur place. Reportage d'Yves-Laurent Goma.
Son dossier dans le sac, Marika Christelle Angélé, 34 ans, est titulaire d'un Master 2 en droit et d'une licence en ressources humaines. Depuis 6 ans, elle est à la recherche de son premier emploi.
J'ai déposé les dossiers partout dans les entreprises privées, j'arrive pas à trouver du boulot. À la fonction publique, j'ai déposé dans plusieurs ministères, plus de 12 ministères. Voilà pourquoi je suis là.
Les stands les plus convoités sont ceux des compagnies pétrolières. Michel Abessolo, comptable formé en Espagne, patiente devant le stand du pétrolier BW Energy.
À Total, partout où j'ai déposé les dossiers, rien. J'ai aujourd'hui 43 ans. Bientôt l'âge de la retraite. À quel âge on va encore travailler ?
Une des raisons de ce chômage dans le pays, les Gabonais n'ont pas le profil recherché par les employeurs. Hélène Ndjambou, directrice des ressources humaines de BW Energy.
Nous sommes en manque de foreurs locaux. Donc avant la production, il faudrait bien que nous forions des puits. Donc sans forage, il n'y a pas de production.
Patrick Gérantan, directeur général d'AGEL Gabon, peine également à recruter.
On a plus de demandes sur certains postes et moins d'offres sur des postes un peu plus techniques. Des chauffeurs de camions, électromécaniciens, des mécaniciens, des hydraulistes.
Le vice-président de la puissante Fédération des entreprises gabonaises va même plus loin. Selon Jean-Baptiste Bicalou, il faut fermer toutes les écoles qui fabriquent les chômeurs au Gabon. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
À Libreville, où il est maintenant 8h42, et vous êtes avec André Anne Mellard pour la suite d'RFI Matin.